Oui, c'est exact. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons parler de politique. Et puis...
Soit même un discours un peu sérieux.
Il est grand, il est beau, il est fort. Il est roi et il le sait.
La nuit, au clair de lune, il se tenait caché au bord de la route.
Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur le plateau de...
GTFM
sur le 91.2.
Sonolab. Le Sonolab. L'atelier des sons. Des projets sonores et radiophoniques réalisés avec des écoles, collèges, lycées, des établissements médicaux, sociaux, culturels, de loisirs de 6 ans à 166 ans. Le mercredi et le dimanche à 11h sur JetFM 91.2.
Bonjour à tous et bienvenue sur JetFM 91.2 dans une nouvelle émission consacrée aux sciences sous le thème de « Les sciences au service de la société ». Aujourd'hui, nous allons plus loin avec une nouvelle équipe de chroniqueurs, les 3G du Collège Saint-Jean-Baptiste. Les 3G du Collège Saint-Jean-Baptiste, est-ce que vous êtes là ?
Oui !
On n'a pas entendu grand-chose. Est-ce que vous êtes là ?
Oui !
Alors, la dernière fois, les chroniqueurs de 3D s'étaient intéressés aux nuisances des sciences face à l'écologie. Cette fois-ci, nous nous penchons sur les progrès apportés par les sciences dans les domaines suivants. Médical, industriel, sur le travail et alimentaire. Puis nous nous interrogerons sur les travaux des inventeurs. Enchaînons maintenant avec deux brèves mythologiques et technologiques.
Brève scientifique.
Des brèves avec de la mythologie.
Les brèves.
Nous avons reçu des nouvelles des dieux, notamment du titan Prométhée, cousin de Zeus et frère d'Atlas, qui vient de voler le feu de l'Olympe, représentant la connaissance, pour la donner aux hommes. Pour le punir, Zeus l'a enchaîné sur le mont Caucase et l'a condamné à se faire manger le foie par un aigle. Le foie repoussant chaque nuit. Pourquoi je parle de ça ? Je vous parle de ça parce que le feu, c'est la première chose maîtrisée par l'homme sur la nature.
Les brèves.
Les brèves.
Les brèves.
Les brèves.
Donc, moi, je vais vous parler de Faust. Cette personne a passé un pacte avec le diable, avec une intelligence incroyable. Ce dernier met au service de Faust un de ses esprits appelé Méphistophélès, un nom très bizarre. Au prix de l'âme de Faust, le diable exauce la plupart de ses vœux. L'âme de Faust sera damnée après sa mort. Quelle triste histoire.
Les brèves.
Les brèves.
Les brèves.
Les brèves.
Connaissez-vous le biomimétisme ? C'est un principe consistant à copier la nature et les animaux. Si vous rencontrez un problème, inspirez-vous de la nature. Celle-ci a peut-être déjà eu les mêmes difficultés, et si c'est le cas, elle a sûrement trouvé la solution. Saviez-vous que les Japonais ont utilisé ce principe pour leur tout nouveau TGV ? Ils se sont inspirés du martin pêcheur. En effet, la forme de son bec lui permet de passer sans risque de l'air à l'eau malgré un changement de pression important. Ainsi, le train pourrait passer d'un tunnel à l'extérieur sans perdre de vitesse à cause de la pression de l'air, ce qui lui assurerait un meilleur aérodynamisme. As-tu d'autres exemples, Clémence ?
Le laboratoire Alison Butler a tout simplement eu l'idée d'utiliser la colle des moules pour faire du scotch plus résistant et plus collant. Il y a aussi des scientifiques qui ont copié la trompe du moustique pour créer des aiguilles pour des opérations chirurgicales très minutieuses et qui demandent du matériel de haute qualité.
Merci à Oscar, Com et Enzo pour ces brèves très instructives. Maintenant, chers auditeurs, si je vous dis Newton, Shiroshi ou Evan O'Neill Kane, à quoi pensez-vous ? Oui, bien sûr, ce sont des savants, mais des savants particuliers. Ils sont considérés comme fous par leurs contemporains. À la suite de leur dernier ouvrage sur ces savants, Anaïs et Julia, deux expertes, sont venues nous rejoindre pour nous éclaircir sur le sujet. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous vous intéressez à ce type de personnes ?
Ce sont des gens qui ont tous fait progresser la science. Ce sont de véritables génies dans leur domaine, mais qui ont la particularité d'avoir choqué leurs contemporains par leurs expériences originales et parfois dangereuses. Au départ, nous avons étudié les plus connus d'entre eux, comme Newton ou Einstein. Mais par la suite, nous nous sommes concentrés sur d'autres, certes moins connus, mais tout aussi intéressants.
Que cherchez-vous à prouver ? Tout le monde sait bien qu'ils sont fous.
C'est évidemment la seule chose que nous voulons prouver en les étudiant. C'est de montrer qu'ils ne sont pas fous, comme tout le monde le dit. Prenons l'exemple de Newton, un des plus connus d'entre eux. Il a d'abord commencé à étudier la gravitation universelle, qui par la suite a été prouvée scientifiquement des années plus tard. Mais à son époque, au XVIIe siècle, tout le monde le croyait fou, alors qu'il avait entièrement raison. Pour nous, maintenant, ce genre de théories ont été prouvées et tout le monde le sait.
Effectivement, cela serait complètement absurde, mais avant cette interview, j'ai également mené des recherches sur les savants fous, dont Newton, et j'ai vu qu'il avait réalisé une expérience en se plantant une aiguille dans l'œil. Cela montre bien qu'il est fou. Une personne normale ne ferait pas ça.
Oui, il a effectivement réalisé cette expérience pour prouver une de ses théories sur l'optique et pour se renseigner sur l'anatomie de l'œil et pour connaître la façon dont l'œil percevait les couleurs. Il s'est donc emparé d'un passe-lacet et l'a mis entre son œil et l'os le plus loin possible à l'arrière de son œil. Il l'a ensuite pressé avec le bout et lui sont alors apparus plusieurs cercles sombres et colorés qui lui ont permis de lui éclaircir quelques voies sur ses idées. J'ai bien sûr conscience que cette expérience peut faire penser qu'il est fou, mais il a juste voulu avancer ses recherches.
Mais alors il met sa santé en danger ?
Oui, effectivement, mais il y en a d'autres qui se mettent en danger, comme Evan O'Neill Kane, qui s'est opéré lui-même de l'appendicite sous l'anesthésie locale en 1921. Il a voulu promouvoir l'autochirurgie.
Il est vraiment dangereux pour lui-même.
Effectivement, si l'opération n'avait pas réussi, il aurait pu en mourir. De plus, c'est l'une des premières personnes qui s'est opérée seule, donc il ne savait absolument pas comment s'y prendre. Il a donc pris un énorme risque.
Mais heureusement, ils ne mettent pas la vie des autres en danger, ce serait terrible.
Mais il en existe qui mettent la vie d'autrui en danger, comme par exemple Shiro Ishii, qui lui, testait des armes bactériologiques comme le choléra sur des cobayes humains qui étaient des prisonniers de la seconde guerre sino-japonaise. Ces armes faisaient le plus souvent mourir les prisonniers. Mais officiellement, il effectuait des tests et se consacrait à la prévention des épidémies et à la purification de l'eau, au sein de l'unité 731, une unité militaire de recherche bactériologique.
Faisait-il cela dans le dos de l'armée ou justement elle était au courant et le couvrait ?
Non, effectivement, l'armée était au courant et le couvrait comme vous venez de le dire.
Mais nous ne pouvons pas dire que cet homme est un savant fou, c'est plutôt un meurtrier.
Bien sûr, c'est un meurtrier, mais c'est aussi un savant. C'est l'un des premiers à avoir inventé des armes bactériologiques, ce qui est quand même une très grande avancée scientifique. Mais il mettait la vie d'autrui en danger. Il est donc dangereux pour les autres.
Voulez-vous ajouter quelque chose sur ce sujet ?
Les savants que nous venons de citer sont fous dans leur manière de démontrer leur théorie. Je vous l'accorde. Mais leurs idées de base ne sont absolument pas délirantes. Ils sont intelligents et ont permis de faire avancer la science.
Les techniques et les moyens qu'ils ont employés pour prouver leurs idées peuvent nous laisser penser que oui, ils sont fous. Mais si l'on cherche un peu plus, on se rend compte que toutes leurs théories tiennent la route.
Finalement, ces savants ne sont donc pas aussi fous qu'on le croit.
C'est exactement cela.
Merci beaucoup pour votre interview et à bientôt.
Passons maintenant à une pause musicale. Nous allons écouter le titre Automatica de Nigel Stanford. Nous avons choisi cette musique car elle montre l'évolution de la science en musique.
En effet, l'artiste a réussi à créer un algorithme pour faire jouer des robots. N'hésitez pas à voir le clip qui vaut le détour. Bonne écoute.
vous êtes bien sur Jet FM 91.2, votre radio locale en direct du collège Saint-Jean-Baptiste à Guérande. On vient d'écouter Automatica de Nigel Stanford. Au programme dans la suite de cette émission, la question du nucléaire en France. Et tout d'abord, un quiz sur les atomes pour tester vos connaissances sur le sujet.
Le quiz.
Les règles du jeu sont très simples. Dès que vous avez la bonne réponse, il vous suffit de dire Curie en référence à cette scientifique qui a découvert le radium et qui y a consacré sa vie.
Les 3e G, vous êtes prêts ?
Oui !
C'est parti. Première question. Qui a découvert les atomes ? A. James Chadwick. B. Démocrite.
Curie. La réponse B.
Vrai. Démocrite est un philosophe grec qui a vécu de 460 à 370 avant Jésus-Christ. De quoi est composée une molécule ? A. Un ensemble d'atomes. B. Un ensemble d'électrons.
Curie. La réponse A.
Vrai. C'est très bien.
Quand a-t-on découvert l'existence des atomes ? A. 200 avant Jésus-Christ. B. 600 avant Jésus-Christ.
C'est 200 ans avant.
C'est ça.
Qui a prouvé l'existence des atomes et des électrons ? A. Rutherford. B. Thomson.
La réponse A.
Faux. C'est pas ça. C'est Thomson. Thomson était un physicien anglais qui a vécu de 1856 à 1940.
Quel est le sens du mot atome, qui ne peut être coupé ou qui ne peut être assemblé ?
Le sens est qui ne peut être coupé ?
Oui, c'est vrai.
Combien y a-t-il de sortes d'atomes ? A. Plus d'une centaine. B. Plus d'un million.
Réponse B. Plus d'un million.
C'est faux. C'est plus d'un million.
Question 7. Qui a inventé le tableau périodique des éléments ? A. Dmitri Mendeleïev. B. Dorothy Hodgkin.
Réponse A.
C'est vrai. Dmitri Mendeleïev était un chimiste russe qui a vécu de 1864 à 1907. En quelle année a été découvert le neutron ? A. 1949. B. 1932.
Réponse B.
Vrai. Le neutron a été découvert en 1932 par James Chadwick. Il a remporté un prix Nobel de la science en 1935.
En quelle année a été découvert l'électron ? A. 1904. B. 1897.
Réponse A.
C'est faux. Avec quels atomes est composée la molécule d'eau ?
H2O.
C'est ça.
Quel est le symbole du carbone ? A. C majuscule avec un A minuscule. B. C majuscule. C. C majuscule avec un U minuscule.
C majuscule ?
Oui. Le symbole S signifie le soufre, le sel ou le sodium ?
C'est le sodium ?
Non, c'est le soufre.
Merci d'avoir participé à notre quiz. Maintenant, c'est une chronique sur le nucléaire.
Alors, merci à Bleuen, Gabriel et Paloma pour ce quiz très intéressant. Maintenant, les atomes n'ont plus aucun secret pour nos auditeurs. Mais dis-moi, Paul, qu'est-ce que l'énergie nucléaire ?
Déjà, l'énergie nucléaire dépend d'un combustible fossile, l'uranium, dont le minerai est contenu dans le sous-sol de la Terre. Elle permet de produire de l'électricité dans les centrales grâce à la chaleur dégagée par la fission d'atomes de l'uranium. Maintenant, Elouane, comment fonctionne une centrale nucléaire ?
Oui, alors une centrale nucléaire est composée en 4 parties principales. Le bâtiment contenant le réacteur dans lequel a lieu la fission, la salle des machines où est produite l'électricité, le départ de lignes électriques qui évacue et transporte l'électricité, des tours de refroidissement uniques en bord de rivière.
Maintenant, revenons en arrière sur l'histoire du nucléaire en France.
Il faut que tu saches que la production d'électricité d'origine nucléaire est développée plus largement à partir de 1977, au lendemain du premier choc pétrolier révélateur de la dépendance énergétique du pays vis-à-vis des hydrocarbures. Aujourd'hui, le parc nucléaire géré par EDF compte 58 réacteurs de niveaux de puissance différents, répartis sur 19 sites. Mais quels sont les avantages et les inconvénients du nucléaire ?
L'énergie nucléaire favorise la réduction de consommation de combustibles fossiles. Grâce au nucléaire, la France est autonome au niveau de la production d'électricité. Les armes nucléaires produisent des puissances nucléaires exceptionnelles qui déciment toute une population sans compter les conséquences d'une telle arme sur l'environnement. Le nucléaire produit beaucoup de déchets, notamment dans le transport et le stockage des combustibles usés. Les déchets radioactifs sont très nocifs pour l'environnement et la santé de la population. La radioactivité est réduite de manière très lente selon la formule de décroissance radioactive. Il faut environ 16 siècles pour faire disparaître les noyaux radioactifs des déchets nucléaires. Les déchets nucléaires sont enterrés dans le sol.
Mais il faut que tu saches que le risque zéro n'existe pas. Il y a eu des catastrophes comme Tchernobyl ou encore Fukushima. Cela nous montre que le nucléaire est quand même dangereux. C'est pour cela que la France développe une électricité d'origine naturelle et renouvelable, comme le biomasse, hydrolienne, hydraulique, marée motrice, éolienne et solaire. Je passe maintenant le micro à Gaëlan et Héloïse qui abordent aujourd'hui un sujet très actuel sur comment les sciences nous aideront à travailler en 2050.
L'âge d'équilibre va-t-il inciter à travailler plus longtemps ? Oui, c'est la raison pour laquelle la mesure suscite la colère des syndicats. Un départ plus tardif qui inquiète certains actifs.
64 ans, vous voyez partir à 64 ans à la retraite ? Non, c'est pas une bonne idée. Déjà 62 ans même, c'est déjà compliqué.
Est-ce qu'on tiendra jusqu'au bout ? Ça, la santé ne permet pas forcément d'aller jusqu'au bout, forcément.
L'âge d'équilibre est-il nécessaire pour des raisons financières ? C'est en tous les cas l'argument du gouvernement.
Vous venez d'entendre un extrait du journal télévisé de France 2 du 11 décembre 2019. Bonne nouvelle, nous avons trouvé des solutions pour vous voir mieux travailler jusqu'à 64 ans. Laureline va vous présenter notre première solution.
En effet, Capucine, on a trouvé plusieurs solutions pour travailler jusqu'à 64 ans. Et la première est l'exosquelette.
Mais qu'est-ce que l'exosquelette ?
Un exosquelette est un appareil motorisé fixé sur des membres du corps humain pour lui redonner sa mobilité ou en augmenter ses capacités.
En quoi cela va améliorer les conditions de travail ?
Eh bien, je pense que cela permettrait aux travailleurs d'avoir des conditions physiques de travail améliorées.
Intéressant, Laureline. Mais y a-t-il des inconvénients ?
Eh bien, beaucoup de personnes sont contre, car d'après elles, les exosquelettes répondraient plus à un fantasme et non à un besoin.
Merci. Maintenant, Gaëlan va nous présenter une deuxième solution.
Notre deuxième solution est l'avatar.
Un avatar, comment ça marche ?
En principe, c'est l'apparence que prend un internaute dans un univers virtuel, jeux vidéo, réseaux sociaux, bref, ça l'identifie.
Quels sont les différents types d'avatars ?
C'est soit une image, soit une photo. Utilisé avec un pseudonyme, il contribue à définir une identité virtuelle.
D'où vient le terme avatar ?
Le terme avatar est attribué à Richard Garrido, qui en fait usage pour la première fois dans le jeu Ultima 4, Guest of the Avatar 1985.
Passionnant. Laureline, tu as une troisième solution, je crois.
Oui, notre troisième solution est l'hologramme. Un hologramme, c'est une image en volume 3D pour le mettre en une image, pour faire jaillir le relief d'une surface plane. On utilise un laser dont la lumière est scindée en deux faisceaux par un jeu de lentilles et de miroirs.
Mais généralement, qui utilise les hologrammes ?
Les hologrammes sont souvent utilisés par des artistes ou des publicateurs, mais aussi par des musées pour exposer des œuvres fragiles ou précieuses.
Est-ce que les hologrammes sont couramment utilisés ?
Non, car ils sont très difficiles à reproduire.
Donc encore trop compliqués pour nos chers travailleurs. Gaëlan, je te laisse présenter une quatrième solution. C'est la régénération.
Depuis les années 1990 et la découverte des cellules souches chez l'homme, la médecine régénérative permettrait de répondre à la pénurie d'organes pour les transplantations. Mais fabriquer un foie, un cœur ou un poumon resterait une utopie.
Il y a-t-il seulement les organes humains qui sont produits ?
Jusqu'en 2008, des biologistes américains réussissent à cultiver des organes de rongeurs sur une matrice naturelle. On a récemment réussi à les faire greffer avec succès, mais pas encore pour les organes humains. Nous espérons que la science progresse pour offrir des organes tout beaux, tout neufs à nos vieux travailleurs.
Et maintenant, pause musicale de Pink Martini avec Je ne veux pas travailler.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner. travailler. Non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume.
Vous êtes sur Jet FM 91.2 et on vient d'écouter Pink Martini et son titre « Je ne veux pas travailler ». Vous êtes toujours dans l'émission des collégiens de Guérande sous le titre « Les sciences font-elles progresser l'humanité ?». En fait, nous sommes en plein cœur de l'hiver. Depuis quelques années, on peut poser des questions sur l'effet de la vaccination. Actuellement, énormément de personnes se font vacciner contre la grippe saisonnière, soit 4 millions de personnes en décembre 2019. Mais est-ce vraiment bénéfique pour votre santé ? Nous interrogeons nos deux spécialistes en la matière, Olivia Dujardin et Aurore Boréal.
Bonjour Ezra.
Pouvez-vous rappeler aux auditeurs ce qu'est un vaccin ?
Un vaccin est un virus affaibli que l'on injecte dans le corps afin de l'habituer à lutter contre le virus sous sa vraie forme.
Mais à quoi sert-il ?
Eh bien, si une personne n'est pas vaccinée, les microbes sont tués grâce aux globules blancs. Mais la première fois qu'arrive le virus, ils ont du mal à le vaincre, donc la personne tombe malade.
Il se peut que l'organisme n'ait pas été habitué à vaincre la maladie en question auparavant, donc la personne reste malade.
Et d'où vient-il ?
Au XVIIIe siècle, les personnes qui fréquentaient les vaches attrapaient une maladie appelée vaccine. Mais pas la variole comme le reste des gens. Edward Jenner, un médecin, comprend alors le lien entre les deux maladies. Il fait une expérience où il injecte la vaccine à un garçon. Plus tard, il injecte la variole à ce même garçon et observe qu'il y est insensible. C'est le premier vaccin.
Le premier vaccin injecté à un être humain, outre celui de Jenner, est celui de Louis Pasteur, qui a été fait à un garçon atteint de la rage après que celui-ci ait été mordu par un chien.
Et comment est-il fabriqué ?
Mettre au point un vaccin est très long et cela coûte très cher. Pour réussir un vaccin, il faut réaliser de nombreux tests, le tester sur des animaux cobayes et trouver une industrie qui accepte de le financer et de le produire.
Alors pourquoi se méfie-t-on des vaccins ?
Certaines personnes s'en méfient car parfois des effets secondaires sont provoqués à cause de leur composition ou de certains produits provoquant des troubles. Ces craintes n'ont pas vraiment lieu d'être et l'efficacité du vaccin est prouvée. Les scientifiques estiment que le vaccin a évité 2 à 3 millions de morts et certaines maladies ont quasiment disparu. Mais attention, si l'on arrête le vaccin, elles peuvent revenir.
Pouvez-vous nous éclairer sur les vaccins obligatoires aujourd'hui, depuis 2018, pour les nourrissons ?
Les vaccins obligatoires sont passés de 3, diphtérie, tétanos, poliomyélite, à 11 vaccins depuis 2018. Mais de nombreux autres sont recommandés. Certaines maladies ne possèdent pas de vaccin, comme le sida ou Ebola. Mais ne vous inquiétez pas, des recherches continuent à être organisées dessus.
Quels sont les autres moyens pour lutter contre les maladies ?
Il n'y a pas que les globules blancs qui permettent de rester en bonne santé. La pratique de sport, la bonne alimentation et le sommeil sont importants.
Le sport renforce les os et améliore la capacité à lutter contre les microbes. Grâce à l'effort, le corps arrive à s'adapter.
Une bonne alimentation est la base du rétablissement.
Le sommeil permet à l'organisme de se régénérer et de se débarrasser des déchets et des toxines plus facilement.
Merci de nous avoir expliqué le fonctionnement du vaccin et de ses origines. Grâce au vaccin, il y a moins de malades. Il permet donc de protéger la population. Mais la question actuelle reste toujours la même. Faut-il vacciner tout le monde ou trouver des solutions pour éviter certaines maladies ? L'alimentation en est une, avec le développement des OGM comme le riz doré.
Merci Erza. En effet, nous allons parler de riz doré. Alors Léna, qu'est-ce que le riz doré ?
Le riz doré est une variété de riz génétiquement modifiée. Il a été créé pour pallier à un manque de nourriture dans les pays les plus pauvres. Il contient du bêta-carotène.
Mais qu'est-ce que le bêta-carotène ?
Le bêta-carotène, une fois consommé, deviendra de la vitamine A. Elle est nécessaire pour éviter des maladies mortelles en favorisant la croissance des os. Elle protège la santé de la peau et l'organisme contre les infections. Les personnes étant sous-alimentées et en manque de vitamine A sont plus fragiles face aux maladies mortelles.
Quelles sont les conséquences du manque de bêta-carotène ?
L'Organisation mondiale de la santé estime que dans le monde, 250 millions d'enfants de moins de 5 ans ont une carence chronique en vitamine A, qui est responsable de la mort de millions d'enfants.
Donc ce riz est consommé dans les régions les plus pauvres.
En effet, cela leur donne assez d'énergie pour toute la journée, sachant que le riz est consommé par la moitié du monde et par des gens qui financièrement ne peuvent s'offrir que cela, alors ce riz est important pour un apport suffisant en vitamine A.
Mais qui a inventé ce riz ?
Les inventeurs sont Ingo Protricus, biologiste suisse d'origine allemande avec son associé Peter Bayer de l'université suisse de Fribourg. Ils ont commencé leurs recherches en 1999 et l'ont terminé 17 ans plus tard.
Y a-t-il d'autres aliments génétiquement modifiés ?
Oui, par exemple le maïs hybride apparu en 1950. Le riz doré ne fait pourtant pas l'unanimité. L'ONG Greenpeace s'oppose au projet en mettant en doute l'efficacité du riz doré contre la malnutrition. L'inconvénient du riz doré est qu'il est consommé et produit par des pays pauvres qui ne contrôleront pas forcément très bien la production d'OGM, ce qui pourrait aboutir à des dysfonctionnements.
Merci pour votre contribution. Nous allons passer à la fin de cette émission qui sera conclue par Clémence.
Nous avons vu, à travers toutes ces chroniques, que la science est au cœur de nos vies. Elle a permis des améliorations considérables et est nécessaire. Mais tant de questions restent ouvertes en ce qui concerne la science, notamment ses dangers actuels et son impact sur notre futur. Et surtout, la science oui, mais à quel prix ? Merci à tous de nous avoir écoutés. Sachez que cette émission n'aurait pas pu être possible sans certaines personnes que nous voulons remercier. Nos professeurs qui nous ont lancés sur ce projet, Madame Castagné, Madame Perrier, Madame Denarié, Madame Ferreira et Madame Beniguel, ainsi que les deux intervenantes radio de JetFM 91.2 qui nous ont permis de concrétiser ce projet. Au revoir et à bientôt sur JetFM.
Retrouvez toutes les réalisations du Sonolab sur www.sonolab.fr ou sur le site de JetFM www.jetfm.fr ou encore en direct tous les mercredis et dimanches à 11h sur le 91.2.